Il y avait dans le Kentucky deux fermiers qui avaient des chevaux de course. Et ces deux hommes étaient rivaux. Un printemps, comme chaque printemps, les deux fermiers inscrivirent un de leurs chevaux à la course d'obstacles du comté. Et pour s'assurer de la victoire, cette année-là, un des fermiers embaucha un jockey professionnel. Le jour de la course arriva, le départ fut donné, et on arrive au dernier obstacle. Et là, les deux concurrents ont déjà fait le vide derrière eux. Ils sont côte à côte, mais au moment de faire le dernier saut, ils se gênent et chutent tous les deux, désarçonnant leur cavalier. Il en fallait plus que ça pour arrêter le jockey professionnel. Il se remit rapidement debout, attrapa la bride du cheval à côté de lui, remonta en selle et gagna la course. Le fermier qui l'avait embauché se dépêcha d'aller le retrouver dans l'enclos où il l'attendait, tout rayonnant. Mais quand celui-ci vit la mine sombre de son employeur, il comprit que quelque chose n'allait pas. « Qu'y a-t-il ? » demanda-t-il. « J'ai gagné, non ?»« Oui, tu as gagné, rugit le fermier. Tu as gagné, espèce de... » Alors là, il fallait faire la censure. Donc, voilà. « Tu as gagné, mais avec le mauvais cheval. » J'aimerais ce matin, dans notre série sur l'apôtre Paul, ça va vous distraire, hein, donc je vais... vous allez essayer de décrypter, puis certains auront reconnu mes sources. J'aimerais donc, dans notre série sur l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, aborder l'épisode de son retour à Éphèse lors de son troisième voyage. Là, à Éphèse, l'apôtre Paul va rencontrer un groupe d'une douzaine d'hommes qui couraient avec le mauvais cheval. Ils étaient disciples de Jean-Baptiste. Ils suivaient Jean et pas Jésus. Ils avaient été baptisés du baptême de Jean et pas du baptême de Jésus. Ils étaient engagés dans la course, mais ils avaient pris le mauvais cheval. Je vous invite à lire le texte que nous allons méditer ce matin, soit dans vos Bibles, soit avec la projection. Nous sommes donc au chapitre 19 et je lis les 7 premiers versets. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, qui était passé par le haut pays, descendit à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Esprit Saint. » Il dit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé d'un baptême de changement radical. » Il disait au peuple de mettre sa foi en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils reçurent le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et l'Esprit Saint vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à s'exprimer en prophète. Ces hommes étaient une douzaine en tout. La dernière fois, nous avons médité les versets qui précèdent au chapitre 18, où il est question d'un autre disciple de Jean-Baptiste, un certain Apollos. Apollos, dit notre texte, qui est maintenant à Corinthe, alors que Paul revient à Éphèse. Nous sommes maintenant dans le troisième voyage missionnaire, troisième et dernier voyage missionnaire de l'apôtre, Et ce retour à Éphèse est le premier récit détaillé de ce troisième périple. Jusqu'ici, il n'y avait eu que cette précision au verset 23 du chapitre 18. Après quelque temps, il repartit et passa successivement par le pays Galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples. Voilà ce qui avait été dit pour l'instant du troisième voyage missionnaire. Plutôt une description plutôt succincte. Alors je vous propose de nous familiariser avec la carte de notre troisième voyage, avec départ comme à chaque fois depuis Antioche, voilà le pays Galate et la Phrygie, et puis Paul qui arrive à Éphèse. Paul arrive à Éphèse, il avait promis de revenir, souvenez-vous, si Dieu le veut, avait-il dit. L'apôtre va rester en tout et pour tout 3 ans à Éphèse. En disant qu'il reste 3 ans à Éphèse, ça ne veut bien évidemment pas dire qu'il n'est jamais parti d'Éphèse pendant cette période-là. L'apôtre va rayonner à partir d'Éphèse dans toute l'Asie mineure, qui correspond à la Turquie actuelle. Et nous en avons une première mention un petit peu plus loin. Je lis à partir du verset 8. Il se rendit à la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il eut des discussions où il usait de persuasion en ce qui concerne le règne de Dieu. Mais comme quelques-uns obstinément réfractaires parlaient en mal de la voix devant la multitude, il s'éloigna d'eux et prit les disciples à part. Il discutait avec eux chaque jour dans l'école de Tyrannos. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Paul rayonne à partir d'Éphèse, de telle sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie entendirent la parole du Seigneur. Paul retourne donc à Éphèse, et la première chose que Luc nous rapporte, c'est la rencontre avec quelques disciples, dit le texte. Je relis le premier verset. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, qui était passé par le haut pays, descendit à Éphèse. Il y trouva quelques disciples. On peut noter ici que le mot « disciple » dans le texte, dans le Nouveau Testament en général, le mot en grec, est un mot qui veut simplement dire « suiveur » ou « apprenti ». Il n'y a pas particulièrement de connotation spirituelle attachée à ce mot-là. Tant et si bien que le Nouveau Testament ne l'utilise pas que pour les disciples de Jésus, mais par exemple pour les disciples de Jean-Baptiste, les disciples des pharisiens, etc. L'apôtre a certainement eu des doutes concernant la foi de ces hommes, puisqu'il leur pose très rapidement une question assez directe que nous trouvons au verset 2. Il trouva donc quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ?» Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ? Cette question de l'apôtre est très intéressante. Et j'aimerais juste souligner une déduction importante qui en découle. À l'évidence, pour l'apôtre, conversion et réception de l'Esprit allaient nécessairement de pair. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenu croyant ? S'ils sont devenus disciples de Jésus par la foi, ils ont dû recevoir le Saint-Esprit. Pour l'apôtre, c'est une évidence. La foi en Jésus et la réception du Saint-Esprit vont normalement ensemble. Notons bien que cette vérité est très largement attestée dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne connaît rien de situation où quelqu'un serait devenu chrétien sans avoir reçu l'Esprit de Dieu. Il n'y a aucun texte qui va dans ce sens-là. Lors de ce que nous appelons la conversion, quand je mets ma foi en Jésus pour mon salut, alors le Saint-Esprit vient faire sa demeure en moi. je reçois l'Esprit Saint et je deviens son temple. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans la venue du Saint-Esprit. C'est lui qui me régénère. C'est lui qui me fait passer de la mort à la vie. C'est lui qui me rend capable de comprendre les choses de Dieu. C'est lui qui illumine les yeux de mon cœur. À Nicodème, Jésus a dit, « Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il faut naître de l'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans la même pensée, l'apôtre Paul écrit aux Romains, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il n'est pas chrétien. Il ne lui appartient pas. Et plus loin, au verset 16, « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit en moi rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est lui qui produit cela en moi. » Notons encore ce que l'apôtre Pierre dit quand il explique aux autres apôtres à Jérusalem ce que Dieu a fait en accordant la grâce aux païens. Vous le savez, c'était loin d'être évident. Que dit-il ? « Alors je me suis souvenu de cette parole du Seigneur qui disait, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous recevrez le baptême dans l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a fait le même don qu'à nous pour avoir cru au Seigneur Jésus, qui étais-je moi pour m'opposer à Dieu ?» Le même don pour avoir cru, dit Paul. Et quel est ce don ? Dont il est fait mention dans ce texte, c'est le don de l'Esprit Saint. Dans les mots du texte, c'est le baptême du Saint-Esprit, le baptême dans l'Esprit. Nous allons y revenir. Être chrétien, c'est avoir le Saint-Esprit. C'est avoir été baptisé dans l'Esprit. Dans la Nouvelle Alliance, chaque croyant possède l'Esprit Saint. Chaque croyant est baptisé dans l'Esprit Saint. Revenons à notre texte. Avant de poursuivre avec les enjeux théologiques de celui-ci, j'aimerais rapidement dire un mot sur l'analogie et puis les différences entre notre texte et celui qui précède avec Apollos que nous avons considéré la dernière fois. L'analogie entre ces deux textes est plutôt évidente, puisque comme cette douzaine d'hommes, Apollos ne connaissait que le baptême de Jean, dit le texte. C'est le verset 25 du chapitre 18. Voilà pour l'analogie. Maintenant, les différences, elles sont elles aussi évidentes. La première différence, c'est qu'il est dit qu'Apollos avait une certaine connaissance de Jésus, qui est mentionné dans ce fameux verset 25. Il, c'est-à-dire Apollos, était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il disait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, alors qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Il n'est rien dit de tout cela pour le groupe d'hommes dans notre texte. La deuxième différence, c'est qu'il n'avait même pas entendu parler d'un Esprit Saint. C'est ce que nous avons lu au verset 2 de notre texte. Le sens ici est sans doute qu'il n'avait pas entendu parler que l'Esprit Saint ait été répandu à la Pentecôte. Pourquoi ? Parce qu'il paraît très difficile d'imaginer que des disciples de Jean-Baptiste n'aient jamais entendu parler d'Esprit Saint, puisque Jean-Baptiste en a quand même parlé à plusieurs reprises. Et puis en plus, ils étaient juifs d'origine et on ne peut pas dire que l'Ancien Testament n'aborde jamais ces questions liées à l'Esprit. La troisième différence, c'est que pour Apollos, rien n'est dit qui fait penser qu'il y a eu conversion. alors que c'est, me semble-t-il, une évidence dans notre texte. Je soulignais d'ailleurs la dernière fois que les avis sont partagés sur cette question concernant Apollos. Certains pensent qu'il s'est converti et d'autres pensent qu'il était converti mais qu'il avait besoin d'une mise à jour. Quoi qu'il en soit, tout dans notre texte, me semble-t-il, converge pour nous faire comprendre que ces hommes se sont convertis ce jour-là par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Ils reçoivent le baptême de Jésus. Et vous le savez comme moi, dans le Nouveau Testament, le baptême suit toujours la foi en Jésus. À aucun moment nous trouvons un texte où le baptême précéderait la foi en Jésus. Et puis ensuite, Paul leur impose les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Tout converge donc pour nous faire comprendre que ces hommes se sont convertis à ce moment-là. Il y a donc bien des différences, mais est-ce si important de le constater ? Vous vous doutez sans doute que si j'en parle, c'est que j'y vois personnellement une certaine importance. Laquelle ? C'est ici que nous arrivons au fameux enjeu théologique de notre texte. Quels sont-ils ? Comme vous pouvez vous en douter, ils concernent essentiellement la question du baptême du Saint-Esprit. Et ce texte, avec quelques autres textes dans le Nouveau Testament, est avancé par certains pour justifier la recherche par le chrétien, par celui qui est déjà disciple, d'une deuxième bénédiction appelée baptême du Saint-Esprit. La première bénédiction consiste à recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, et la deuxième bénédiction consiste à recevoir l'Esprit Saint dans sa plénitude. Alors, il y a bien évidemment des variantes, mais je n'entre pas dans ce genre de détails. Et ce baptême de l'Esprit doit alors être accompagné de signes prodigieux qui attestent la venue de l'Esprit, en particulier avec le parler en langue. Et ceux qui n'expérimentent pas ce baptême et qui n'expérimentent pas ces manifestations qui l'accompagnent sont alors considérés comme n'étant pas remplis de l'Esprit. Ils sont alors souvent perçus comme étant immatures spirituellement, plutôt charnels, voire même désobéissants, des chrétiens incomplets. Que faut-il penser de cette compréhension ? Est-elle juste ? Est-elle fondée bibliquement ? Il convient ici de développer un peu plus ce que j'ai déjà esquissé sur cette question du baptême du Saint-Esprit quand nous avons fait le lien entre croire et la réception de l'Esprit. Bibliquement parlant, c'est ma compréhension bien évidemment, le baptême du Saint-Esprit équivaut à la réception de l'Esprit-Saint, à la réception initiale. C'est l'acte initial par lequel Dieu me fait entrer dans le corps de Christ, par lequel Dieu fait de moi un membre de sa famille. L'expression « baptême du Saint-Esprit » est une des façons de désigner cette expérience initiale par laquelle le Saint-Esprit vient habiter dans une personne qu'il va régénérer, qu'il va faire passer de la mort à la vie, qu'il va sauver. Si le baptême du Saint-Esprit était une deuxième expérience que le chrétien doit rechercher, alors il est surprenant de constater qu'aucun texte dans tout le Nouveau Testament ne nous y exhorte. Je pense que l'explication se trouve dans la définition même du chrétien que nous venons de rappeler indirectement. Le chrétien est celui qui possède déjà l'Esprit de Dieu. Il le possède dès sa conversion et il le possède en entier. Le baptême du Saint-Esprit est le point de départ de la vie chrétienne et non pas un de ses buts. Il n'est donc pas nécessaire de rechercher ce que j'ai déjà, et c'est la raison pour laquelle il n'y a aucune exhortation dans le Nouveau Testament à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Si le baptême de l'Esprit-Saint était aussi important pour la vie chrétienne, comme l'affirment ces mêmes personnes, comment comprendre qu'aucun des auteurs du Nouveau Testament, faisant face aux innombrables problèmes de l'Église naissante, comment expliquer qu'aucun d'eux ne fasse à aucun moment ce constat-là en disant que ce qu'il manque à cette Église charnelle, immature, c'est d'être baptisé, c'est de recevoir l'Esprit-Saint dans sa plénitude. Pensez aux églises de Corinthe, de Galatie, de Colosse, d'Éphèse, de Laodicée, avec leur manque d'unité, leurs hérésies, leurs immoralités, leur mondanité, j'en passe. N'était-ce pas un manque évident de la puissance de l'Esprit dans la vie de ces croyants? La réponse est, me semble-t-il, oui. Oui. Pourtant, jamais leurs problèmes ne sont analysés comme le manque du baptême de l'Esprit-Saint. Aucune exhortation donc. Mais qu'en est-il du livre des Actes? Qu'en est-il d'un texte comme notre texte ce matin? Pour les protagonistes de la recherche du baptême du Saint-Esprit, ces textes sont suffisants. Ils sont normatifs. Que faut-il en penser? J'aimerais apporter ici deux éléments de réponse. Le premier est une question d'herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation du texte biblique. Et il concerne le genre littéraire du livre des Actes. Quel est le genre littéraire du livre des Actes? Il s'agit du genre narratif. Le livre des Actes est un récit historique. La première question qui se pose devant un texte, devant tout texte, et devant le texte biblique, pour bien le comprendre, est de déterminer quel est son genre littéraire. Celui-ci est déterminant pour la bonne compréhension du texte. On n'interprète pas de la même manière de la poésie et de la narration. On n'interprète pas de la même manière un texte apocalyptique et un psaume. Chaque genre littéraire a ses propres règles et ses propres règles d'interprétation. Le livre des Actes est un livre historique. C'est de la narration. Et quel est le but d'un texte narratif? C'est de nous raconter une histoire. C'est de nous rapporter l'histoire avec un grand H dans ce cas-ci. L'histoire de l'Église naissante avec un grand H. L'erreur que beaucoup font ici, selon moi, ça n'engage que moi, est de faire du livre historique des Actes, qui a donc pour but de nous dire comment vivaient les premiers chrétiens, comment les choses se sont passées dans l'Église au début, de faire de ce livre des Actes un livre normatif, qui aurait donc pour but de nous dire comment nous devons vivre dans l'Église. Bien sûr, nous pouvons tirer des leçons d'un texte narratif. Mais ce n'est pas la même chose de tirer des leçons et de faire de ce texte-là une norme qui s'applique à chacun. Ce n'est pas parce que les premiers chrétiens ont vécu quelque chose que nous devons forcément vivre la même chose. Et cela m'amène au deuxième élément de réponse qui concerne la période des Actes. Comment la définir ? Ce que nous devons bien comprendre ici est que la période des Actes est une période de transition. C'est une période charnière. C'est un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout est en construction dans les Actes. Tout est transition et rien ne peut être normatif. Nous constatons d'ailleurs que bien des choses présentes dans les actes vont progressivement disparaître dans les épîtres, une fois que les églises seront bien établies, avec des ministères bien en place. C'est ainsi que progressivement, dans les épîtres, on ne va plus parler du ministère d'apôtre, et plus parler du ministère de prophète, et des dons qui accompagnaient ces ministères, mais de pasteur, de docteur, de diacre, avec les dons qui sont propres à ces ministères. C'est ainsi que progressivement, il ne sera plus question du parler en langue, par exemple, seulement présent dans le livre des Actes, et puis dans une seule épître, l'épître aux Corinthiens, qui est peut-être la première épître du Nouveau Testament. Une fois que les choses sont en place, certaines des manifestations que nous voyons dans le livre des Actes tendent à disparaître. Quand nous comprenons que la période des Actes est une période de transition, un pont, nous comprenons combien il est hasardeux de bâtir une norme, une théologie, une doctrine à partir de cette période. Les épîtres nous ont été donnés pour cela. Les épîtres nous enseignent la manière dont nous devons vivre et dont nous devons vivre dans l'Église. Un pont n'est pas fait pour que l'on habite dessus, mais pour nous faire passer à autre chose, pour nous emmener de l'autre côté. Et beaucoup de théologie aujourd'hui, en particulier sur le Saint-Esprit, sont bâties sur le pont du livre des Actes. Et c'est la raison pour laquelle, à mes yeux, ces théologies sont un peu bancales parfois. Revenons à notre texte. Oui, la douzaine d'hommes de notre texte a été baptisée du Saint-Esprit. Non pas comme une deuxième expérience, qu'ils n'ont pas recherchée d'ailleurs, si vous regardez bien le texte, mais comme l'expérience initiale de leur conversion. Ils n'étaient pas disciples de Jésus, mais ils étaient disciples de Jean. Ils n'avaient pas encore mis leur foi en Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 4, nous voyons que Paul les amène de Jean-Baptiste à Jésus. Nous pouvons donc nous appuyer sur ce texte, entre autres, pour dire que le baptême du Saint-Esprit n'est pas quelque chose que nous devons rechercher. Si j'ai donné ma vie à Dieu, si j'ai mis ma foi dans le Christ, j'ai été baptisé dans l'Esprit Saint. Si j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai reçu l'Esprit de Dieu, non pas en partie, mais en entier. Et il n'y a rien à compléter. Le Saint-Esprit est une personne, et quand il vient en entier. Il ne vient pas par petits bouts. Nous ne devons pas rechercher le baptême du Saint-Esprit si nous sommes enfants de Dieu, mais nous devons rechercher à vivre par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous ne devons pas rechercher le baptême du Saint-Esprit, mais rechercher la sanctification, rejeter le péché, afin de ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Nous ne devons pas rechercher le baptême du Saint-Esprit, mais rechercher sa vie et son fruit. Nous devons marcher par l'Esprit et non plus par la chair. Nous ne devons pas rechercher le baptême du Saint-Esprit, mais nous devons rechercher sa plénitude. Comme le dit Paul aux Éphésiens, « Soyez remplis de l'Esprit », écrit-il, chapitre 5. Verset 19. Voilà très rapidement ce que nous devons rechercher concernant le Saint-Esprit. Un mot sur cette plénitude du Saint-Esprit. De quoi s'agit-il ? Je dois être bref. Si le baptême est l'acte initial, unique et définitif, correspondant à la venue de l'Esprit en moi, alors la plénitude du Saint-Esprit est quant à elle un état que je dois rechercher, un état qui devrait se répéter dans ma vie. Quand Paul écrit, il serait intéressant de prendre un peu plus de temps avec ce texte d'Éphésiens 5, Mais quand Paul écrit aux Éphésiens « Soyez remplis de l'Esprit », littéralement, le texte grec nous autorise à traduire « Soyez continuellement remplis de l'Esprit ».« Soyez continuellement remplis de l'Esprit ». Voilà ce que nous devons rechercher, c'est cette communion-là. John Stott, dans un très bon petit livre que je vous encourage à lire, il se lit rapidement, il s'appelle « Du baptême à la plénitude ». Alors, j'avais que la version anglaise parce que j'ai dû prêter à quelqu'un la version française. Mais c'est un très bon petit livre sur ces questions de l'esprit que vous trouverez certainement à la librairie. Il résume dans ce petit livre, en tout cas très bien à mes yeux, la différence entre baptême de l'esprit et plénitude de l'esprit. Je vous ai mis cette citation. En tant qu'événement initial, le baptême n'est pas renouvelable. Il est acquis, on ne peut le perdre, mais la plénitude peut être renouvelée. Elle doit en tout cas être entretenue. Si elle n'est pas entretenue, on la perd. Si on la perd, on peut cependant la ressaisir. Quand le Saint-Esprit est attristé par le péché, il cesse de remplir le pécheur. La repentance est alors le seul remède. Il me semble que beaucoup de ce qui est labellisé aujourd'hui baptême du Saint-Esprit est en réalité de l'ordre de la plénitude de l'Esprit. Il y a des choses qui sont vécues par certains que je ne nie pas, mais qui sont plus de l'ordre de la plénitude du Saint-Esprit que de l'ordre du baptême du Saint-Esprit. Et il me semble qu'il y a une certaine confusion à ce sujet. Un mot rapidement sur l'imposition des mains dans notre texte, avant de conclure par quelques courtes applications. Pourquoi Paul fait-il ce geste? Comment comprendre que l'Esprit-Saint vienne par ce geste de l'apôtre? Faut-il une imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit? Il faut se rappeler ici que nous sommes dans cette période de transition dont je parlais, cette période des actes, où rien n'est exactement comme ailleurs, où pas grand-chose n'est normatif, et le ministère apostolique en fait partie. Ce serait une erreur que de vouloir transposer ce que les apôtres faisaient à ce que nous devons faire. Et plusieurs commentateurs, devant ce geste de l'apôtre que l'on retrouve dans d'autres textes, s'accordent pour voir là un geste d'inclusion, visant à faire comprendre à cette douzaine d'hommes qu'ils ne suivent plus désormais Jean-Baptiste, l'enseignement de Jean-Baptiste, mais l'enseignement des apôtres. Et on peut noter, alors il faudrait développer un peu plus, mais qu'on retrouve exactement la même chose pour les Samaritains, dans le chapitre 8 du livre des Actes, et là aussi, il y a cette imposition des mains, et là aussi, on peut le comprendre comme cette nécessité de faire comprendre à ces hommes qui étaient en marge du peuple d'Israël, qu'ils font maintenant partie pleinement du peuple de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est sans doute aussi dans ce sens-là que l'on peut comprendre les manifestations qui accompagnaient cette venue de l'Esprit, comme le parler en langue ou les prophéties. Alors vous allez être sans doute frustrés, mais je ne peux pas développer ce matin la question du parler en langue. J'aurais pu dire 3-4 phrases, mais ça aurait été bien incomplet. J'essaierai une fois de développer cette question un peu plus avec sérieux, et je ne peux pas le faire ce matin, donc c'est partie remise. J'aimerais terminer avec 3 courtes leçons, applications que je retiens de ce texte. La première application concerne notre évangélisation, la prédication de l'évangile au sens large du texte, au sens large. De quoi ou de qui, pour être plus précis, parle-t-on à quelqu'un qui n'est pas converti? Et je crois qu'en prenant exemple sur ce que l'apôtre Paul fait ici, nous devons dire que c'est de Jésus dont nous devons parler et non pas du Saint-Esprit. C'est le Christ qui est nécessaire pour le salut. Et c'est lui et lui seul que nous devons annoncer. Et quand quelqu'un met sa foi en Jésus, comme ce fut le cas pour ces hommes, alors l'Esprit Saint vient et fait sa demeure en eux. Pas besoin de l'annoncer. Ce que nous devons annoncer, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. La deuxième application que je voudrais souligner, c'est que l'on peut être sincère, chercher à vivre une vie honnête devant Dieu, même se repentir de ses péchés, et pourtant cela ne suffit pas devant Dieu. La repentance seule ne suffit pas. Les hommes de notre texte avaient reçu le baptême de Jean, et le baptême de Jean était un baptême de repentance. À n'en pas douter, ces hommes cherchaient sincèrement à vivre d'une manière droite et juste devant Dieu. Mais cela ne suffit pas pour le salut. Notre justice, dit le prophète Ésaïe, est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Seule la justice du Christ est suffisante pour notre salut. Il leur fallait encore à ces hommes mettre leur confiance en Jésus, parce que seul le Christ peut nous sauver. Seul le Christ nous justifie. Seul le Christ nous rend acceptables aux yeux de Dieu. Alors bien évidemment, la repentance est indispensable. Mais la repentance toute seule ne me sert à rien. La repentance doit s'appuyer sur l'œuvre du Christ. Ou bien elle est vaine. Courir, c'est bien. Encore faut-il courir avec le bon cheval. Enfin, la troisième et dernière leçon que, application que je voudrais vous laisser est sous forme d'une question. Et elle prend un petit peu le contre-pied de la question de la recherche du baptême du Saint-Esprit. La question pour nous qui sommes chrétiens n'est pas de savoir si nous avons l'Esprit ou pas, je pense l'avoir un peu démontré, mais de savoir si l'Esprit nous a ou pas. Ce n'est pas tellement est-ce que je possède l'Esprit Saint, est-ce qu'il est en moi, mais est-ce que je suis en lui ? Je crois que c'est finalement ça la vraie question. Est-ce que ma vie lui est offerte ? Est-ce que, pour prendre une image assez simple, est-ce que je lui ai donné toutes les clés de la maison ? Ou bien est-ce qu'il y a, comme ça, à la cave, au grenier, au deuxième étage, une ou deux portes dont je garde précieusement la clé pour moi tout seul ? Est-ce qu'il y a des jardins secrets où Dieu n'est pas le bienvenu dans ma vie ? La question n'est pas est-ce que j'ai le Saint-Esprit ? Je l'ai si je suis un enfant de Dieu. Mais est-ce que le Saint-Esprit a ma vie en entier ? Et cette question est essentielle, bien évidemment, pour chacun de nous. Et c'est cela, je crois, que je vous invite en tout cas à retenir ce matin, je termine avec ça, cette importance de soumettre notre vie à l'Esprit de Dieu qui vit en nous, lui remettre un double de chacune des clés de la maison. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Je vous invite à prendre quelques instants encore de réflexion où chacun peut se placer devant Dieu.